certaines tentations, certaines pensées, certains péchés nous rongent tant que nous restons au bas du sol. Est-ce que vous êtes d'accord et puis moins? Beaucoup d'entre nous sont encore rongés par le péché. Peut-être ce sont les tentations sexuelles. Peut-être ce sont les mauvaises paroles qui blessent nos relations, qui brisent nos relations. Peut-être ce sont les conflits dans le couple qui nous épuisent et qui nous découragent aussi. Ou encore l'amour de l'argent, la réussite, les plaisirs, les préoccupations de ce monde. Et tout ça, ça prend de la place et ça vient et ça ronge. Et petit à petit, ça t'affaiblit. Ça refroidit ton amour pour le Seigneur. Et puis ça menace de t'éloigner tout simplement du chemin que le Seigneur a prévu pour toi. Mais lorsqu'on prend le temps d'élever notre regard vers Christ, de rechercher les réalités d'en haut, beaucoup de choses qui nous dominaient vont perdre de leur force, de leur pouvoir sur nos vies quand on commence à prendre de l'altitude avec le Seigneur. Ce qui nous rangeait en bas ne résiste pas quand on prend de l'altitude spirituelle. Et est-ce que tu vois ce que c'est que prendre de l'altitude spirituelle ? Quand nous cherchons les choses d'en haut, Dieu nous donne les capacités à déjouer tout simplement les ruses du diable qui nous rongent de l'intérieur. Sur nos couples, les couples qui veut diviser, Satan, son projet, c'est de diviser les couples. Et vous savez, quand moi j'accompagne des couples, je me rends compte que souvent ce sont des petites choses. Quand on rate là, qu'a fait. Mais on n'a pas dit rien. Surtout là où quand on rate là, ou pas exactement ça, côté qui a fait ça, donc tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais c'est quand le temps passe que tu te rends compte qu'il a dévoré peut-être tout un sachet de farine. Pas arrêté farine, ne peut pas faire gâteau encore. Hein? Mais c'est ça la stratégie du diable. Et ça ronge par petits morceaux. Et ce qu'il veut, c'est que nos familles soient découragées, que nos enfants soient détournés, que nos églises puissent s'affaiblir. Tout cela par le rat qui commence à ronger petit à petit. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse faire un examen personnel. Où est ton regard aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées lorsque tu te réveilles le matin? Qu'est-ce qui remplit tes conversations, ton temps libre, tes recherches sur Internet? Qu'est-ce qui sont tes préoccupations et tes projets? Paul nous invite à avoir un examen honnête. S'il nous demande de rechercher ce qui est en haut, c'est qu'il nous interroge. Mais qu'est-ce que nous recherchons après tout? Quelle est notre recherche vraiment profonde? Est-ce que ce sont les réalités d'en haut? Parce que j'aimerais te dire que ce que nous regardons le plus finit par influencer ce que nous devenons. Ce que nous regardons le plus finit par influencer ce que nous devenons. Tu deviens petit à petit ce que tu admires. Peut-être que ce sont les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux qui vont finalement influencer tes valeurs, influencer tes désirs. Peut-être ce sont les conversations que tu entretiens le plus souvent et qui vont façonner ta manière de penser. Peut-être ce sont les contenus tout simplement que tu consommes chaque jour qui nourrissent ton esprit et qui vont orienter ton cœur. L'apôtre Paul nous dit « Recherchez les choses d'en haut. » Car si tu contemples constamment le monde, tu penseras comme le monde. Mais si tu contemples le Christ, tu vas ressembler progressivement à Christ. En fait, rechercher les choses d'en haut, ça signifie apprendre à vivre chaque aspect de notre vie avec les yeux du Seigneur Jésus. Et vous savez, ce sont les choses les plus banales, parce que je n'aimerais pas être mal compris ce matin. Rechercher les choses d'en haut, vous savez, finalement, c'est vivre mieux les choses d'en bas avec le regard du Seigneur. Avec simplicité, mais avec force. Rechercher les choses d'en haut signifie tout simplement, mais comment tu parles à ton conjoint quand personne ne t'entend? Sauf ton conjoint, bien sûr. Et puis les enfants qui regardent. Comment réagis-tu quand on te contredit? Comment travailles-tu quand personne ne te surveille? Comment utilises-tu ton argent? Vous savez, l'argent, que ce soit dans le couple ou dans la vie, dit beaucoup de nous, je l'ai déjà dit ici. La façon dont nous utilisons l'argent nous montre quelles sont nos priorités. Est-ce que, dans la manière dont tu utilises l'argent, il s'agit des choses d'en haut? Comment occupes-tu ton temps? Et vous savez, tout ça, ce sont de bons indicateurs de notre vie spirituelle. Alors bien sûr, il faut prendre le temps de la parole, il faut prendre le temps du jeûne, il faut prendre le temps de la prière, il faut prendre le temps de chercher le Seigneur. Mais quand on a pris ce temps-là, tout cela doit se traduire concrètement dans notre façon de vivre au quotidien. Les priorités d'en haut. Et j'aimerais te dire que la foi ne se mesure pas à la qualité des chants du dimanche matin, ni à des grands moments d'émotion avec le Seigneur. La foi ne se mesure pas à cela. La foi ne se voit dans ta patience. La foi se voit dans ton pardon. La foi se voit dans ton honnêteté. La foi se voit dans ta fidélité. La foi se voit dans ton service. La foi se voit dans ton obéissance au quotidien. Alléluia. Dans tout ce que tu fais au quotidien, dans la simplicité. Amen. Et lorsque ton regard reste fixé sur Jésus, tu ne vis plus simplement pour l'aujourd'hui, mais tu vis aussi pour l'éternité. Est-ce que c'est ce que nous dit la fin de ce passage? Car quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il y a une dimension eschatologique ici. C'est que finalement, nous voulons ressembler au Seigneur parce que nous nous préparons à son retour. Nous nous préparons à son retour. Et nous voulons vivre encore plus pleinement cette vie extraordinaire avec lui, à son retour. Et c'est pour cela que Paul invite ceux qui sont morts et ressuscités à faire mourir. Observez ce qu'il dit plus loin. Au verset précisément 5. Après avoir demandé de regarder vers le haut, Paul va conduire les Colossiens à arracher en profondeur. En gros, tu es mort et ressuscité, mais tu dois faire mourir. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? Tu es mort et ressuscité, mais tu dois te débarrasser. Tu es mort et ressuscité, mais tu dois renoncer. Tu es mort à toutes les bêtises que tu faisais avant. Amen. Et tu dois aussi faire mourir les bêtises qui veulent revenir. Et la question, c'est pourquoi ces bêtises, elles reviennent? Vous savez, on raconte l'histoire d'un homme, qui avait un champ de pastèques. Qui aime manger la pastèque, là, ici, là? Ah ouais, on est nombreux, là. Surtout quand il fait chaud, une bonne pastèque, là, ça fait du bien, hein? C'est très sucré, hein? Ah ouais. Oui, là, il n'est pas blanc, hein? Là, il est sucré, hein? Et il faut savoir choisir la pastèque, hein? Ah ben oui! En fait, cet homme, il était vraiment embêté parce que Timon a été qu'à passer pour un pastèque-lit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un panneau dans son champ. Je ne pense pas que notre frère Charlie le ferait, mais on verra. Il a mis un panneau dans son champ et il a dit « Une de ces pastèques est empoisonnée. » Alors qu'en réalité, aucune n'était empoisonnée. Alors bien sûr, les enfants, ne sachant pas qu'elle était dangereuse, ne sachant pas quelle était la pastèque qui était dangereuse, ben, ils ne sont pas allés voler les pastèques, forcément. Donc le gars, il s'est dit « Bon, ben, chouette, super, il n'y a pas qu'un, mais il m'a. » Il a menti, en quelque part, pour protéger sa récolte. Mais probablement, c'est que le lendemain matin, là, il virait, il ouait en les pancartes là, il a barré une, et puis il mettait deux. Donc, actuellement, il passe à manger pièce pastèque aussi. Toute sa récolte est devenue inutilisable. Le propre mensonge qu'il a fait s'est retourné contre lui. Et c'est souvent ainsi avec le péché. Péché qui amène un péché. Là, on a joué puis péché, ou qu'a quoi ou qu'a contrôlé. Ou qu'a quoi ou qu'a limité. Ou qu'a quoi ou qu'a serré. Ou qu'a quoi ou qu'a géré. Mais il y a un temps où quand il compte, qu'on nous compte, qu'il a retourné contre nous. Une petite compromission devient une habitude. Une petite habitude devient une dépendance. Et une dépendance devient une prison. C'est un homme marié, mais il peut ne pas être marié, qui commence à regarder des vidéos pornographiques de temps en temps pour se détendre, et puis ça devient une habitude quotidienne. Et puis une dépendance qui est cachée, et peu à peu, le regard même, et c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours le petit rat, hein, n'est-ce pas ? Le regard même qu'il a pour son épouse va changer. Et puis finalement, leur intimité va s'appauvrir et le couple va être fragilisé. Ça peut être aussi une personne qui veut simplement améliorer son confort et qu'il y a un travail, il y a un deuxième travail, il y a un troisième travail, et puis c'est travail, travail, travail. Et finalement, ce qu'ils se rendent compte, c'est que finalement, il n'y en a jamais assez. Parce qu'elle veut, elle est dans la comparaison. Et on le disait encore, que nos enfants grandissent dans une société de comparaison avec les réseaux sociaux. N'est-ce pas ? Et parfois, on fait beaucoup de choses, mais par comparaison, pour pas ça, moun kaï dit, ou bien ça, moun kaï pensé, n'est-ce pas ? Et ici, en l'occurrence, pour cette personne, peu à peu, l'argent occupe toutes ses pensées et finit par gouverner ses choix, péché qu'amène un péché. Peut-être aussi, comment dire, c'est une parole qui est blessante. Quelqu'un refuse de pardonner et qui fait qu'il ressasse, toutes ses blessures du passé. Et puis ça devient un ressentiment, ça devient de l'amertume qui est là. Et finalement, toutes ces amertumes font que cette personne même qui a subi des autres, elle devient dure à l'égard des autres. Péché qu'amène un péché. C'est ainsi que le péché fonctionne. Le péché ne disparaît pas facilement. Il faut l'arracher à la racine. Et j'aimerais donner vraiment une méthode en 5 points, si vous voulez, pour pouvoir arracher un péché à la racine. La première étape consiste à reconnaître honnêtement et véritablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, trop souvent, nous excusons nos péchés. Nous parlons de caractère difficile au lieu d'amertume. Nous parlons de faiblesse au lieu de désobéissance. Nous parlons de maladresse au lieu de mensonge. Mais ce que Dieu veut guérir ici, c'est que ici, là où il veut intervenir, nous devons d'abord accepter de nommer ce qui ne va pas avec les mots tels qu'ils sont. Première chose, c'est la première étape de la reconnaissance. La deuxième chose à faire, c'est de remonter jusqu'à la racine. Le péché que tu vois n'est que le reflet de quelque chose. La racine, elle masque, comment dire, du moins, le péché ne fait que masquer la racine qui est là, derrière. On parle d'amertume, eh bien, ça exprime tout simplement une colère qui peut cacher une blessure. On peut parler aussi d'impureté. Le passage que nous avons parle d'impureté. Il parle d'impudicité. La fornication, la pornographie, l'infidélité peut cacher tout simplement un vide affectif. Quelqu'un qui se retrouve seul, qui se retrouve isolé. L'orgueil que nous développons peut cacher une profonde insécurité. Mon nom qui a essayé de faire, il me l'a dit sans créole. Bon, mon père dit. Mais tout ça pour dire que quelqu'un qui cherche à dominer les autres, ça peut cacher tout simplement une insécurité. La racine, elle est là. La jalousie peut cacher un manque de confiance. Et nous devons nous demander tout simplement pourquoi ce péché trouve-t-il encore de la place dans mon cœur ? Pourquoi ce péché trouve-t-il encore de la place dans mon cœur ? Ça, c'était la deuxième chose à faire, trouver la racine qui est derrière. Et parfois, tu as peut-être besoin d'être accompagné, d'être suivi, pour pouvoir laisser le Saint-Esprit t'éclairer. Peut-être que tu as besoin d'un temps de prière, mais tu as besoin d'arrêter de lutter simplement contre le péché, mais d'essayer de trouver la racine et de commencer à déraciner le mal. La troisième chose à faire, c'est d'exposer ses racines à la lumière de Christ. Vous savez, une racine, ça pousse dans l'obscurité. Et lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle commence à perdre de sa force. Et c'est pour ça que la confession est importante. Et nous avons besoin de retrouver, de saisir à nouveau la valeur profonde de ce que nous dit Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est d'une grande efficacité. On a besoin de mettre des mots sur ce qui est caché. Parce que le péché aime le secret. Et la grâce aime la lumière. Et la lumière, elle annule le péché. Alléluia. Amen. Confesser. Mettre en lumière. C'est le troisième conseil. Mettre en lumière. Les racines à la lumière vont changer. Les racines du mal à la lumière vont changer. Le quatrième conseil, c'est de remplacer les anciennes racines par des nouvelles. Parce qu'il ne s'agit pas de déraciner et puis d'être là sans racines. Parce que si tout ce que l'on fait pour nous nettoyer spirituellement, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, après, cela ne sert à rien. Parce que la Bible dit bien que, n'est-ce pas, sept autres vont venir et vont remplir cette place. Donc on ne peut pas simplement enlever, il faut aussi remplir. Et Paul ne dit pas simplement de nous dépouiller du vieil homme, mais il dira ensuite de nous revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. De remplacer le mensonge par la vérité. De remplacer l'amertume par la grâce. Alléluia. Au lieu de rester prisonnier du passé, on apprend à accepter que Dieu nous accueille et l'accueil de Dieu est sans limite. Et si je suis accueilli par Dieu, alors je peux le laisser me remplir et ne pas attendre que la personne qui m'a fait du mal puisse, comment dire, me faire du bien. Si Dieu m'aime et si Dieu me reçoit sans limite, alors je suis déjà rempli. Remplacer l'amertume par la grâce. Remplacer le mensonge par la vérité. Remplacer l'amour de l'argent ou l'orgueil par la sécurité qui est en Christ. Au lieu de toujours vouloir plus pour nous sentir plus importants, non, notre sécurité est en Christ, notre véritable richesse est en Christ. Remplacer l'impureté, l'impudicité, vous savez qu'ils recherchent en fait une forme de satisfaction, rechercher notre satisfaction en Christ. Alléluia. Au lieu de chercher dans une sexualité qui va dans tous les sens, mais qui en fait nous détruit à petit feu. Ça, c'est la quatrième étape. Changer, comment dire, remplacer les mensonges que l'ennemi a prévus par les vérités de Dieu. Et la cinquième et dernière étape, c'est de demeurer auprès du Seigneur. Quand on demeure auprès du Seigneur, alors on commence à plonger nos racines en lui. Alléluia. Et là, on voit bien que ce n'est pas simplement une question de volonté, mais c'est une question d'intimité avec le Seigneur, une question de relation intime avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en nous, chers frères et sœurs. Et j'aimerais terminer avec ce dernier aspect, changer de l'intérieur. Au verset 10. Après avoir regardé vers le haut, après avoir arraché en profondeur, Paul conduit les Colossiens à une étape essentielle, changer de l'intérieur. Le verset 10 nous dit, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ou besoin déshabillé pour habiller. Tirez linge sala qui en l'heure, après journée travaillou. Quitter toute vieille habitude, là où tu es dominé par le péché plus que par la volonté de Dieu, même quand tu sais ce qui est juste, ce qui est bien, tirer vieille linge sala. Là où tu es plutôt centré sur toi, sur tes propres affaires, plutôt que sur les besoins des autres, le Seigneur dit, tirer vieille linge sala. Et là où finit bien, mettez vêtements propres là. En l'air. Et là, le Seigneur vient et il accomplit quelque chose de particulier en toi. Et on en a besoin, chers frères et sœurs. C'est comme lorsqu'on se lave le matin, comment dire, ou encore le soir, on se lave, on met un vêtement propre. C'est pas juste une enveloppe extérieure, mais ça nous a touché de façon si profonde qu'on est prêt à aller dormir ou on est prêt à affronter la journée du travail, n'est-ce pas? Ce n'est pas que quelque chose d'extérieur. Et le Seigneur veut nous toucher, il veut nous habiller de façon particulière. Et j'aimerais vous donner juste une image. Qui aime les pop-corn ici? Qui pas aimé? Qui sait faire des pop-corn ici? Hein? Alors, je ne sais pas si j'ai déjà donné cette image ici, mais qui aime le grain de maïs quand il est dur? Personne n'a pas mangé ça. Les poules, n'est-ce pas? Poula ka manje, mais ou pa ka manje, n'est-ce pas? J'aimerais te dire que chaque grain de maïs contient une petite quantité d'eau. En fait, c'est de l'humidité. Et quand le grain de maïs se retrouve au contact de la chaleur, eh bien, cette fibre, cette petite quantité d'eau, elle va commencer à prendre de la place, n'est-ce pas? Et elle va commencer à monter en pression. Et cette pression va produire une transformation. Petit à petit, le grain de maïs va exploser. C'est ce que vous avez vu ici. De ça, on va passer à cela. Et ça va exploser en quelque chose qui est plus grand, qui est léger et qui est moelleux. Et que là où on mettait si quand l'ail, là où on mettait sel, où on mettait ça, sans fini, sans arrêter. N'est-ce pas? Après l'explosion, l'enveloppe extérieure devient presque invisible. Et l'apparence du grain est désormais dominée par ce qui était caché à l'intérieur. Et je crois que c'est une belle image de la transformation chrétienne. Lorsque nous recevons le Seigneur, Dieu dépose en nous une nouvelle vie. Et j'aimerais te dire que Dieu a déposé en toi cette nouvelle vie qui ne demande qu'à exploser. Encore faut-il pour toi t'exposer à la chaleur du Saint-Esprit. Alléluia. Encore faut-il pour toi te mettre dans les bonnes conditions pour que cette vie qui est présente en toi puisse désormais grandir. Et c'est lorsque le Saint-Esprit agit en nous par la parole, par l'obéissance, par la prière, par la communion avec Dieu, avec le Seigneur, qu'il va s'exprimer à l'extérieur. C'est là où le caractère de Christ se développe en nous. C'est là où notre manière de parler va changer. C'est là où notre manière d'aimer va changer. C'est là où notre manière de servir va changer. C'est là où notre manière de vivre va changer. Comme le grain de maïs chauffé qui finit par exploser. Alors la question pour nous en ce matin, ce n'est pas tant qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour bien paraître. Parce qu'on ne fait pas de la cosmétique spirituelle superficielle en ce matin. Mais c'est quelle rénovation que le Seigneur veut opérer de façon profonde en moi. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit me transformer de l'intérieur? Est-ce que je laisse la chaleur du Saint-Esprit me transformer de l'intérieur? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit produire cette pression nécessaire à me transformer de l'intérieur? Et vous savez, la pression du Saint-Esprit, ce sont des moments où Dieu nous pousse. Peut-être même parfois, il nous pousse à bout. À pardonner alors qu'on voudrait se venger. À aimer alors qu'on a été blessé. À obéir alors que cela nous coûte. À persévérer alors que peut-être tu veux abandonner. À dire la vérité alors qu'un mensonge serait plus facile à dire pour... n'embêter personne, voilà, pour passer comme une lettre à la poste. J'aimerais te dire que c'est dans la pression que le Seigneur veut te transformer. Nous avons parlé en ce matin de la nécessité de regarder en haut, de toujours regarder en haut, autrement les petits rats qui veulent nous ronger vont continuer à faire leur œuvre. Et ce qui n'était pas visible deviendra visible à un moment donné, on verra qu'il y a comme des trous. Nous vous ai parlé en ce matin de la nécessité de faire attention parce qu'un péché amène un autre et qu'il faut pouvoir aller regarder à la racine ce qui ne va pas afin de transformer, comment dire, les mensonges, de changer ces mensonges, de remplacer ces mensonges par la vérité. J'aimerais te dire en ce matin que nous avons besoin de nous laisser exposer par le Saint-Esprit. Exposer dans la chaleur du Saint-Esprit. Et peut-être qu'il y a des réalités de l'ordre de la pression qui nous mettent mal à l'aise. Peut-être qu'il y a des attentes que nous n'avons pas encore vues se réaliser. Mais j'aimerais te dire que tu es à la bonne place et que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre en toi. Tu as besoin encore de passer du temps dans sa présence, d'apprendre à prier, d'oser exprimer de ta bouche ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Tu as besoin aussi de passer du temps à lire sa parole et de prendre cette parole comme des prières et de les exprimer et de ne rien lâcher. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Peut-être que dans ces temps de pression, il y a aussi la nécessité pour toi d'obéir tout simplement au Seigneur. Peut-être que ce n'est plus le temps de réfléchir, mais simplement selon la conviction que le Saint-Esprit met en toi, choisis d'obéir. Peut-être qu'il est nécessaire pour toi d'arrêter de fréquenter un certain nombre de personnes qui ne t'aident pas, mais de commencer à fréquenter de véritables croyants qui vont t'aider à grandir dans la foi. Tu as besoin d'être dans un environnement de pression, de chaleur du Saint-Esprit pour pouvoir éclater en louange, éclater en adoration et éclater pour exprimer précisément ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Le grain de maïs est indigeste. Et parfois, en tant que chrétien, on peut passer des années à être indigeste. Alors que Dieu est là. Il est tout à côté de toi. Et il veut faire une œuvre particulière dans ta vie. N'aie pas peur. Il est possible d'arracher ces racines du mal qui continuent à t'orienter dans des directions que tu ne veux pas. J'aimerais te dire que tu peux prendre ta victoire ce matin. Et il est possible de s'enraciner en Christ en changeant chaque mensonge par la vérité de sa parole. Il est temps pour toi d'arrêter de te lever le matin et de gober les mensonges de l'ennemi sur ta vie, qui dit que tu ne vas pas y arriver, qui prend chacune de tes émotions pour en faire ce qu'il veut et qui fait que dans tes rapports avec les autres, ta famille, ton couple, enfin bref, tu es en train de distiller des choses qui ne sont pas de la vie. Il est temps pour toi d'arrêter d'attendre que les choses, que les gens qui sont autour de toi changent. Il est temps pour toi de changer les mensonges qui orientent ta vie. Et alors, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de son amour, dans la présence de sa grâce, même au cœur de la pression, tu éclateras pour exprimer pleinement ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et pour être un instrument de bénédiction. Si en ce matin, ce message te concerne d'une manière ou d'une autre, tu peux simplement te lever. On va juste prier avec toi alors que le piano continue. On va juste prier avec toi. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut, nous dit la parole de Dieu ce matin. Si tu es ressuscité, ça veut dire que tu es mort. Tu es mort à ton ancienne vie. Et là où peut-être qu'il y aurait encore des racines qui viennent comme t'empêcher d'avancer, tu peux prendre position ce matin. Alléluia. Et je veux simplement prier avec toi. Du plus profond de ton cœur, je veux simplement prier avec toi ce matin. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta parole vient d'une manière ou d'une autre toujours nous renouveler. Merci parce que dans ta parole, il y a des joyaux précieux, Seigneur, à côté desquels nous ne voulons pas passer. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être des tristes religieux. Tu ne nous as pas appelés à être des religieux qui soignent la vitrine. Tu nous as appelés à être entiers avec toi. Ce qui fait que lorsque nous rentrons chez nous, après le culte, c'est l'odeur de Christ que nous voulons donner à notre épouse, à notre époux et à nos enfants. Et même à ceux qui, là où nous vivons, ne te connaissent pas. Nous voulons que cette odeur de Christ les amène aussi à être touchés par la chaleur du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne voulons pas être des chrétiens de façade. Alors aide-nous encore tout au long de cette semaine à déraciner le mal, quelle que soit la forme que prend ce mal. Et à apprendre une fois de plus à nous enraciner en toi. Et à laisser le Seigneur encore travailler en nous pour que nous puissions refléter qui tu es, quel que soit l'endroit où nous sommes. Et que, quelle que soit la situation que nous avons à vivre, Seigneur, nous voulons rayonner pour toi, Seigneur. Alors, nous voulons, tu le dis dans ce passage, comprendre que nous sommes cachés en toi, dissimulés en toi. Nous avons toute la protection nécessaire en toi pour que toi, tu puisses faire le travail en nous. Et que finalement, c'est toi que nous voyons. Parce que si nous sommes cachés, dissimulés en toi, c'est pour que nous puissions te voir, toi, le Christ, à travers nos vies. Viens. Viens, fais ce travail en nous. Te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces racines du mal qui sont en nous et qui fait que ceux qui mangent nos fruits ont parfois mal au ventre. Viens et change nos racines. Aide-nous à les déraciner. Aide-nous à être intentionnels. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous enraciner en toi, de mieux comprendre quel est ton amour et comment cet amour touche nos vies, touche nos blessures, touche notre histoire, touche peut-être l'amour que nous n'avons pas reçu et que nous ne savons pas donner. Viens toucher cela, afin que plus nous enracinons en toi, nous retrouvons tout ce que tu avais prévu pour nous dès l'origine, dès le début, dès la création. Viens, Seigneur. Travaille nos cœurs, travaille nos vies. Oh, Jésus. Je te prie vraiment pour l'église du CED ce matin, Seigneur. Je te prie pour que cette église, Seigneur, nous puissions ne jamais tomber dans nos habitudes. Ne jamais, Seigneur, nous contenter de peu avec toi. Mais toujours chercher davantage. En cherchant à dépendre de toi, parce que tu es tout suffisant. À plonger nos racines plutôt qu'à chercher autre chose. Nous voulons vraiment, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, apprendre de toute cette sève, de tous ces nutriments spirituels dont nous avons besoin, Jésus. Ne permets pas que nous puissions nous perdre. Ne permets pas que les déceptions de la vie nous amènent à nous détourner, à devenir soit nonchalants ou encore à chercher toute autre chose. Aide-nous à revenir sans cesse à toi. Parce que tu veux transformer chaque aspect de nos vies. Alléluia. Viens. Et viens ce travail, faire ce travail en nous. Merci parce que tu fais de nous des ressuscités. Tu nous as permis de mourir en toi. Et c'est bien ce que nous avons exprimé dans le baptême. Alléluia. Aide-nous à vivre en ressuscité. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.